même. Et je vais en profiter d'ailleurs par la question qui va se poser à nous de parler un peu des deux parutions précédentes où je n'étais pas là, mais que vous avez quand même suivi, je suppose. Je ferai pas l'appel, c'est pas la peine. Vous risquerez de faire la pioche. On va tout de suite commencer à lire le premier paragraphe de la paracha, de telle sorte d'avoir le texte en tête. Je vous signalerai un certain nombre de sujets au fur et à mesure de la lecture. La précédente, vous demandez au bureau de ne pas faire de bruit. À la fin de la paracha précédente, on apprend qu'il y a eu un incident qui a fait suite à l'échec de la tentative de Bilaam de maudire Israël. Tout à l'heure, j'aurais à reprendre ces personnages qui étaient en jeu dans le récit de la paracha de la semaine dernière, Balak, Bilaam. Je vous signale déjà qu'il y a un étonnement chez les commentateurs. Comment se fait-il qu'on ait attribué une paracha à un personnage aussi néfaste pour Israël que Balak? Ça va être le cas ici, je veux dire, le sujet, le thème général, c'est les parachiotes qui sont sous le nom d'un personnage exemplaire. Et on s'attend à ce qu'il s'agisse de personnages, disons, positifs vis-à-vis d'Israël et de ce que représente la Torah. Par exemple, dans notre paracha de cette semaine, Pinchas. Pinchas, comme vous le savez, est un descendant d'Aaron, un petit-fils d'Aaron, et il est intervenu dans un épisode très grave qui nous est raconté à la fin donc, du texte de la paracha précédente. C'est ce qu'on appelle dans les expressions traditionnelles des commentateurs l'affaire des filles de Moab. Et depuis qu'on commence à étudier le livre de Bemidbar, c'est autant de sujets de romans policiers ou d'aventures. Il y a eu l'affaire des... Il y a eu des tas d'affaires, je ne vais pas les rappeler, parce que ça va nous faire des parenthèses. Mais il y a l'affaire des filles de Moab. Balak était le chef d'une coalition des peuples de la région au moment de la sortie d'Égypte d'Israël. Et lorsqu'il a compris que rien ne pouvait vaincre la force de ce mystère, de ce peuple d'esclaves sortis d'Égypte, à peine des camps de concentration de l'Égypte, et qui sème la terreur sur son passage pour entrer dans le pays des Hébreux, qu'on appelle à l'époque, je vous le rappelle, le pays de Canaan, parce qu'il était occupé par les Cananéens. Et il a compris, nous dit le texte, au début de la paracha précédente, Vayar Balak ben Tzippor et Kolacha à Israël, il a compris que rien ne pouvait vaincre Israël. J'ai signalé en passant un problème important qu'on étudie d'autre part. Comment se fait-il que ce peuple d'esclaves ait une puissance politique et militaire telle qu'elle sème la panique dans le Moyen-Orient de l'époque? Vous avez compris que ce qui se passe actuellement éclaire ce qui s'est passé au temps de la sortie d'Égypte et réciproquement. Alors Balak, qui est le roi de Moab à l'époque, après usurpation de dynastie, tout ça, ça s'étudie, fait appel à un prophète qui est un prophète des nations qui s'appelle Bilaam et qui a la capacité prophétique pour toutes les nations ensemble. Chaque nation avait son prophète en ce temps-là, au temps de la prophétie, jusqu'au temps de la sortie des Juifs, plus exactement jusqu'au Sinaï. Je crois que nous avons étudié cela une fois. Notez si vous voulez, moi j'ai oublié, s'il nous reste du temps après, on reviendra là-dessus. Pourquoi à partir du Sinaï, la prophétie cesse chez les nations, mais elle existait chez les nations, et en plus à certaines périodes, qui sont des périodes de fin d'exil, il y a un prophète qui a la capacité prophétique de toutes les nations ensemble. C'est Bilaam en ce temps-là. Bilaam, qui est donc convoqué par Balak pour essayer, disons, de maudire Israël. Vous vous rappelez donc du sujet de la paracha de la semaine précédente. Et le raisonnement de Balak est le suivant. L'épisode de la guerre entre les Hébreux et les Hémorites, les Amoréens, qui était raconté juste avant, lui fait comprendre que aucune guerre, comme on dit aujourd'hui dans nos problèmes contemporains, qui aurait pas de solution militaire. Alors il essaye une autre stratégie et il demande à Balak de maudire. Il y a un sujet important, mais vous avez dû l'étudier la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire maudire un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire bichlal, maudire? Et qu'est-ce que ça veut dire bénir? Comment des paroles peuvent influer sur un problème aussi grave? Les peuplades qui habitaient le Moyen-Orient voulaient empêcher Israël de rentrer chez lui. Et alors, on s'aperçoit que personne ne peut empêcher Israël de rentrer chez lui. Et alors on essaye une stratégie qui soit autre que celle qui est inefficace jusqu'à présent, jusqu'aux Émorites y compris, la force militaire. Et je dirais très brièvement, le sens de maudire ici, c'est dire le mal d'eux. Et nous avons vécu depuis le temps du nazisme d'ailleurs, et y compris la période actuelle, des événements politiques qui reprennent cette stratégie de Balak et de Bilam. C'est le problème de ce que peut faire la propagande pour dénaturer la réputation d'un individu ou d'un peuple. Ça a été inventé au temps du nazisme par Goebbels, je me souviens très bien de l'apparition de cette technique qui implique des tas de sciences derrière, la technique de la propagande. La propagande nazie, au temps de l'hitlérisme, était arrivée à persuader l'humanité entière que les juifs c'était le diable et que ça allait de soi, que la chasse à l'homme et que brûler ces gens-là, ben, ça n'a aucune importance. D'autant plus que déjà depuis 2000 ans, l'Église avait préparé les esprits. Mais on est arrivé à faire que, l'efficacité, l'effet de cette propagande consistait à rendre mauvais, dire le mal de, faire que ça devient mauvais. C'est la malédiction la plus grande. La signification, la catégorie de malédiction la plus grande. Donc je résume, on pourrait se demander, et je vais vous signaler un verset que vous reprendrez, ou qu'on peut reprendre tout à l'heure, lorsque Dieu se révèle à Bilam, et lui demande de ne pas aller maudire Israël, parce qu'Israël est béni. Mais Dieu peut tout. Est-ce que Dieu ne comprend pas comment Bilam aurait cette force de faire que ce que Dieu a béni serait maudit? Au bénéfice du principe de la liberté des créatures, on s'aperçoit qu'effectivement, cette liberté de la parole peut jouer et peut aboutir au fait que ce qui est bien est perçu comme mal. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous vivons un événement de ce genre depuis la proclamation de l'État d'Israël. Cette fois, pas la calomnie de propagande vis-à-vis du peuple juif, mais la calomnie de propagande vis-à-vis d'Israël qui arrive à changer la réputation, la dénomination d'identité d'Israël à travers les masses médias et à travers les chancelleries. C'est le symbole du mal absolu. De la même manière qu'au temps de Hitler, je l'ai vécu ce temps-là, juif, ça voulait dire le diable. Alors on a vécu un temps politique en lien encore où sionisme, ça veut dire la barbarie. Et des juifs même, ils sont pris au piège de cette propagande et en sont persuadés, pas seulement des juifs, des israéliens, et pas seulement des israéliens, des professeurs. Et je n'ai pas besoin de vous signaler les personnages en question. Et on peut se demander comment ça arrive une chose pareille. Et bien voilà, la Torah nous raconte comment ça arrive une chose pareille. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on ne peut rien contre Israël, alors on essaye de le maudire, dire le mal d'eux, c'est-à-dire de dénaturer son identité. Je me souviens de choses inouïes, les injures politiques que des peuples d'Afrique ou d'Asie s'envoient à la figure, alors qu'ils connaissent absolument rien de l'histoire d'Israël. Alors voilà, impérialistes, colonialistes, sionistes, messieurs, vous êtes des sionistes. On s'adresse d'asiatiques à africains et de soviétiques à américains. Okay? Crime, sionisme. Je ne sais pas si vous en êtes compte comment ça va vite. Alors qui est ce Bilam contemporain, ce prophète des nations tout ensemble, le porte-parole de l'opinion publique des nations? C'est bien évidemment, et depuis quelque temps, je crois depuis le début, le secrétaire général de ce que l'on appelle l'ONU. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il est chargé d'enregistrer toutes les dizaines, je crois des centaines de déclarations de condamnation d'Israël pour faute de sionisme, avec un hoquet des nations, tout à fait l'histoire de Bilam et de Balak. Vous voyez à quel point, si vous voyez les choses, sont analogues bien que semblables. Ou si vous voyez semblables puisqu'analogues. C'est exactement cet épisode que l'on est en train de vivre. Effectivement, la nation arabe, avec ses 22 pays, qui cherche à en faire un 23e pour remplacer Israël, n'arrive pas à vaincre Israël, ce peuple d'esclaves sorti des camps de concentration et des ghettos dans la génération précédente. Alors elle le maudit, elle le propagandise, et ça prend. Et ça prend à Washington, d'ailleurs vous avez dû remarquer, on arrive à habituer les gens à ce que Jérusalem, ce n'est pas la capitale d'Israël, c'est la capitale d'un pays arabe qui s'appelle la Palestine. Et ça prend au gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, vous savez, je l'avais dit un jour, jusqu'à la guerre des six jours, il y avait un sionisme chez les juifs. Le sionisme consistait à faire un État juif en Eretz Israël. À partir de la guerre des six jours, apparaît chez les juifs eux-mêmes un deuxième sionisme dont l'objectif est de créer un pays arabe en Palestine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Mais il s'agit de ça, tout simplement. Alors, je reviens au sujet. Cette stratégie de malédiction par la propagande de Bilam ayant échoué, alors, disant le mal, il est obligé de dire le bien. Alors, il laisse un conseil à Balak, en lui conseillant ce peuple. Personne ne peut le vaincre, parce que son identité, cette identité que nous apprenons d'autre part comme étant une identité hébraïque, et qui est garantie par la halakha, eh bien, cette identité est inassassinable. Par conséquent, essaye de corrompre son identité. Et voilà la stratégie que Bilam conseille à Balak. Les filles de Moab vont fraterniser avec les hommes d'Israël. On va faire des colloques judéo-moabites. Israélo-moabites. Et puis, les filles de Moab vont se parer comme les marraines de guerre dans les combats. C'était la Madelon. Alors, la Moabite, elles vont se farder. Elles vont prendre sur elles le fardeau de la séduction d'Israël. Et puis, elles vont les inviter à avoir une tasse de thé à la menthe, elle apostrophe, bien sûr, dans les tentes du camp dit d'Israël. Et puis, finalement, elles vont les séduire et les amener devant l'idole et, sauf mariage à l'église. Bon. Et alors, voilà la stratégie que Bilam conseille à... ça a failli prendre. Ça a failli prendre au point que nous raconte la Torah dans le dernier récit, la paracha précédente, que un prince d'Israël, il s'appelait Zimri ben Salou. Je me rappelle quand on a étudié ça, le maître nous disait c'était un fils de Salou. Et prononciation nord-africaine du mot bien connu en français. Et avec une princesse de Moab qui s'était vouée au sacrifice consommé. Et qui s'appelait Cosby Batsou. Pinchas, personne ne bouge. La Ligue des droits de l'homme garantit ce qui se passe. Alors, personne ne bouge. Pinchas se révolte et tue les deux, collaborateurs. Et alors, nous allons étudier le récit de ce qui suit. Simplement, j'indique tout de suite pour économiser. Dans l'étude, on peut se demander, il y a deux questions posées par le Talmud, pourquoi Moïse n'intervient pas? La réponse, elle est très simple, il ne peut pas intervenir, il est pris au piège parce que lui avait épousé une Midianite, allait expliquer à Cosby, à Zimri ben Salou, que ça n'a rien à voir, la fille de Jéthro convertie par le Bedin de Moïse, et puis... l'histoire de Cosby Batsou. Vous comprenez la différence de nature, Ken. Ça me rappelle une histoire juive que j'ai entendue dans un restaurant à Paris. C'est pour détendre l'atmosphère. C'est quelqu'un qui rentre dans un restaurant où il y a marqué cachère, on ne sait pas qui garantit, et il y avait dans le restaurant la photo de Moshe Rabbeinu. C'est que ça commence déjà à Paris. Vous rentrez dans un restaurant et vous voyez la photo de Moïse. Bon. C'est la nouvelle religion du siècle. Alors le juif qui rentrait dans la maison demande, est-ce que c'est cachère? Il dit, comment tu demandes c'est cachère? Tu vois pas la photo de Moïse? Alors il lui dit, écoute, si j'étais rentré dans le restaurant tenu par Moïse et qu'il y avait ta photo, j'aurais été sûr que c'est cachère. En tout cas, pour revenir au sujet, étant donné que Moïse était, son intervention a été prodomo, comme on dit, puisqu'il était dans ce cas à un autre niveau, bien entendu. Alors, il est paralysé, si j'ose dire. Personne ne bouge. Pinchas prend l'initiative et, arrête cette magéfa, cette catastrophe. C'est-à-dire, Israël aurait été dénaturé, son droit à rentrer en Eretz Israël se serait évanoui dans les sables du désert. Et on ne refait pas l'histoire à l'envers. Mais alors, j'imagine. Donc, la Torah nous aurait raconté l'histoire de notre Israël qui aurait remplacé cet Israël qui avait échoué et duquel on me parlerait dans un demi-verset en disant « Et puis cette branche-là s'est perdue dans les sables. » Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas le cas. C'est l'Israël sorti d'Égypte, quelles que soient les tentations de le dénigrer, si vous voulez, qui arrivera jusqu'au bout de l'histoire, au temps messianique. Cet Israël n'est pas un autre. Et il y a eu, à travers les siècles, énormément de tentatives de substituer à l'Israël originel, celui de Moïse sortant des Hébreux d'Égypte, un Israël ersatz, seconde manière. Et il faut dire que l'histoire de cet Israël n'est pas une histoire simple. C'est une histoire très difficile. Ça, on étudie d'autre part pourquoi ces rébellions, pourquoi ce peuple, qui est le seul à se dénier, et le fait avec une telle délectation. C'est un autre sujet, je vous le signale en passant, mais pour signaler quelque chose. Nous avons un prophète qui est Amos, qui dit en clair que Dieu lui-même dit « Votre conduite est telle que je devrais vous changer par un autre peuple, mais j'ai juré de ne pas le faire. » Alors je ne peux pas le faire. J'ai juré aux ancêtres de ne pas le faire. Et quand on assiste à ce qui se passe aujourd'hui, et dans le peuple juif en général, et à la Knesset, alors on se demande si Amos n'avait pas raison. Enfin, grâce à Dieu, Dieu est Dieu et ne peut pas changer sa parole. C'est clair ce que je dis là. Mais il y a jusque-là un doute. Il y a même la moitié d'un doute, ça s'appelle Chassidoute. Mais il y a une mise en doute. Quoi qu'il en soit, voilà la grandeur de Pinchas que nous allons lire dans le texte et je reviendrai sur les différents sujets que cela pose avec l'aide de Rachi. Vous arrivez à m'entendre quand même, ça va? Donc. Vayaber Hashem et Moshe Lemor. Et Dieu parla à Moïse en disant Pinchas ben Eleazar ben Aaron Akohen, Pinchas, fils de Eleazar, fils de Aaron Akohen. Et nous étudierons en particulier un Rashi qui explique cette généalogie. Pourquoi faut-il relier Pinchas à Aaron? Vous rappelez un autre personnage qui a donné son nom à une paracha, Korach, vous rappelez, de la rébellion contre Moïse. Et lui, sa généalogie ne le ramène qu'à Lévi et pas à Jacob. Vous rappelez de ça? Eshiv et Chamati et Meal Béni Israël. Eshiv a fait revenir ma colère, Chamati, de dessus les enfants d'Israël. Bekano et Kinati Betocham. Difficile à traduire en français, mais je vous donnerai la traduction d'abord mot à mot. Lorsqu'il fut pris du zèle, de mon zèle, lorsqu'il fut jaloux de ma jalousie, Rashi va nous changer un peu la traduction du vocabulaire. Il va nous dire Nekama, vengeance, et Ketsef, colère. On lira Rashi tout à l'heure. Mais regardez bien l'expression Bekano et Kinati. Lorsque lui a pris sur lui de mon problème. C'est-à-dire, personne n'a fait ce que je souhaitais que soit fait, mais que moi, je pouvais pas faire. Question, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il faut attendre que Pinchas intervienne pour mettre fin à ce risque de dénaturation d'Israël? Il y a eu d'autres fautes où c'est Dieu qui intervient. Coup de semonce. Mais là, Dieu ne fait rien. Il attend, Moïse ne peut rien faire, et c'est Pinchas qui prend la vengeance de Dieu entre les mains. C'est clair maintenant la traduction. Velo chiliti et béni Israël, bekinati, et je n'ai pas détruit. Le terme de chiliti, c'est écraser, effacer les enfants d'Israël dans ma colère. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là déclenche Hamati, kinati, de la part de Dieu, et le résultat aurait été l'annihilation d'Israël, comme ça avait été le cas au moment de la faute du veau d'or, mais là, Moïse est intervenu en exigeant de Dieu la suspension de la sanction. C'est un autre sujet, mais on le dit d'autre part. La reine est morte. C'est pourquoi tu vas dire, Ineni Notenlo, me voici donnant à lui, lui Pinchas, et Beriti Shalom, mon alliance, la paix. Mon alliance de paix. À qui sera donnée l'alliance de paix? À celui qui sera capable de prendre en main la Kin'a contre les ennemis d'Israël, contre l'état des choses en Israël. C'est très important d'étudier cela. Je n'ai pas eu le temps de lire attentivement, parce que je suis parti à ce moment-là, le texte que Yosef Hatoun a dû vous rédiger pour la paracha. Est-ce que quelqu'un a un texte? Est-ce que c'est bien lu? Tenez-moi un texte.
Oui, oui, c'est lu.
Oui. Et alors là, il pose en particulier le problème suivant. N'y a-t-il pas une contradiction entre le rôle de Aaron, qui doit être l'homme de paix, donc du Cohen, qui doit être l'homme de paix, et le fait que l'alliance de paix soit donnée précisément à celui qui apparaît comme l'extrémiste, le canaï, pas une canaille en français, hein, mais canaï en hébreu, c'est celui qui est pris du zèle. On les appelait au temps de la révolte contre les Romains les zélotes. Et les zélotes sont calomniés par les historiens comme on n'a aucune idée, un peu à la manière dont aujourd'hui ceux qu'on appelle les extrémistes, les canaïm d'Eretz Israël, sont calomniés par ceux qui vivent de l'histoire des autres. Alors, en tout cas, vous verrez ce texte dans le Kimitzion. On verra un peu plus en détail dans Rashi. Ve'aitalo ulzaro acharav, et cela sera pour lui et pour sa postérité après lui, berit keunat olam, une alliance de prêtrise éternelle, tachat en... aidez-moi à traduire. Tachat ici, ça ne veut pas dire en dessous, mais parce que à la place de tachat, vous avez compris en hébreu? Tachat asher kine lelo kav, parce qu'il a été pris du zèle pour son Dieu, Vaychaper al Bene Israël, et il a expié, il a assuré l'expiation et le pardon. C'est ce mot de kapara, c'est à la fois expiation et pardon sur les enfants d'Israël. Ensuite, on nous dit la grandeur de Pinchas en deux versets. C'est pas n'importe qui contre qui il est intervenu. C'est, je vais lire les deux textes, Veshem Ish Israël Amouké, et le nom de la personnalité d'Israël, Amouké, qui a été frappé, Asher Huka est un Midianite, qui a été frappé avec la Midianite, Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimoni, prince de maison paternelle de la tribu de Siméon. Veshem Aisha Amouka, Amidianite, et le nom de la femme qui a été frappée, la Midianite, Kozbi Batsour, Kozbi, fille de Tsour, Rosh Umot Bet Av, chef de peuple de maison paternelle, Bemidian en Midian, où il était. Je me rappelle au temps de Kissinger. Le Rav Kook nous avait fait une analogie entre l'intervention de Kissinger au moment des accords avec l'Égypte. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces péripéties. Kissinger a pris parti pour l'Égypte de la même manière que. Aujourd'hui, comment il s'appelle ?
Dennis Ross,
conseiller
juif de...
Ben oui, peu importe. Bon, ça, j'ai point de suspension. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Kissinger était marié avec une non-juive qui n'était pas convertie, avec, même pas au temple Emmanuel, là-bas. Alors, c'était assez analogue. Et Singer, nous disait-il, c'est Zimri, Singer. Et puis, chaque fois qu'il rencontrait sa date, il l'embrassait. Donc, c'était Kissinger. C'était Zimri ce Ben Salou. Vous vous rappelez de ces péripéties?
Ça, c'est le complexe du juvénotique qui veut se faire bien voir par son patron.
Enfin, disons du ministre premier. C'est le seul. Regardez, qui a eu le prix de la paix? Kissinger. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la guerre contre le Vietnam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Reprenez en mémoire les péripéties de Kissinger, prix de la paix, à la fin de la guerre du Vietnam. Et c'est une paix de ce genre qu'il voulait pour nous. Okay. Bon, mais ce n'est pas lui qui aura l'alliance de paix. Finalement, c'est Begin qui est allé à Stockholm. Là-bas. C'est Stockholm. Alors on revient au sujet. Enfin, le sujet général sur lequel je pense qu'il est important de réfléchir, c'est comment se fait-il que la Torah est tenue à mettre en évidence un certain nombre de personnalités des récits historiques de ce temps. La réponse est très simple. C'est, elle nous les donne comme modèle de profil d'identité, d'épisodes, de péripéties analogues que nous avons à vivre dans l'histoire du peuple d'Israël. Je vous rappelle le principe, c'est Nachmanide qui l'a mis à la base de son commentaire. Et à la suite de Nachmanide, énormément d'analyses ont été faites. J'ai été habitué dans mes études à suivre la ligne de Judas Lévi, continuée par le Maharal et par le Rav Kook. C'est la même ligne à travers le Shlah. Je dois dire d'autres, mais sur le Perit Tzadik, mais surtout, c'est Judas Lévi, le Maharal, le Shlah et le Rav Kook, de nous faire comprendre ceci. Le peuple d'Israël vit une histoire dont le projet existe à l'avance. Non pas sa réalisation dans l'existence existentielle, dans l'événement, événementiel, mais son programme en essence, dans l'essentiel. Est-ce que c'est bien clair? Et c'est le premier modèle qui nous est révélé, qui nous est dévoilé, c'est la manière dont la prophétie hébraïque a formulé l'histoire des pères, des patriarches surtout. Et le principe est le suivant. Kolma sheira la'ot siman labanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les enfants, c'est-à-dire pour ce qui arrivera aux enfants dans la mesure où ils sont enfants de ces pères-là, dans la mesure où ils s'identifient par fidélité réelle. Ce n'est pas l'histoire de n'importe quel groupe juif que la Torah raconte en racontant l'histoire d'Israël. Elle raconte l'histoire d'un Israël qui est les banim de ses avot, la descendance des pères qui ont fait émerger cette identité hébraïque dans l'histoire humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai aussi pour toutes les nations. Pour toutes les nations, quand je dis nation, c'est pas n'importe quel groupement politique qui s'intitule du titre d'un pays, d'un peuple ou d'une nation aujourd'hui. Il y a un mélange absolu de ce qu'étaient les 70 nations originelles à partir de la diaspora de Babel, la diaspora de l'humanité de Babel. Mais quoi qu'il en soit, toutes les nations, tant qu'elles avaient leur sefer yochassin, leur filiation par généalogie, et j'ouvrirai une parenthèse tout à l'heure, rappelez-moi, pour Ishmael et Esav, avaient leur prophète qui leur expliquait le sens de leur histoire, de leur destinée historique. C'est disparu pour toutes les nations, sauf pour Israël. Alors là, j'ouvre la première parenthèse. Je vous demande d'avoir la mémoire qui me manque. Pour la deuxième parenthèse, je ne sais déjà plus de quoi je parlais, juste avant. Qu'est-ce que je vous ai dit en vous disant ça? Ah oui, rappelez-moi tout à l'heure. C'est qu'au moment où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a demandé, comme clause de recevoir la Torah, que la prophétie s'arrête chez les nations. Plus exactement, que la Shrina ne réside plus chez les nations. De même manière qu'il y avait Shrina pour Israël, il y avait aussi Shrina pour les nations. Et j'appellerais ça providence au premier degré. Pour les nations, il n'y a plus que providence au second degré. Et rappelez-moi d'expliquer ça tout à l'heure. Et en particulier, cette providence au premier degré, qui va être réservée uniquement au lien entre le Créateur et Israël, à partir du Sinaï, est demandée par Moïse. L'explication, ça se trouve dans une page de la Maseret de Brachot. L'explication de cela, nous l'avons déjà une fois étudié en détail, il me semble, mais je vous le rendrai rapidement. C'est que Israël, c'est la seule nation qui a accepté que son histoire soit jugée d'après la Torah. Or, il y a des raisons pour lesquelles les autres nations ont refusé. La Torah qui leur a été proposée comme Israël et avant Israël. C'est parce que l'humanité entière a refusé à tour de rôle, nation par nation, que leur histoire de civilisation soit jugée par la Torah, c'est-à-dire par la loi morale, et bien que finalement Dieu s'est inventé une nation qui est Israël, à part du dedans de l'humanité, mais à part, et qui elle a accepté la Torah. Le sujet est très vaste et très important, mais je le dirai par rapport à notre problème de la manière suivante. Et la Torah raconte d'abord en préface de la loi comme loi, raconte l'histoire de l'universel humain. Et par conséquent, il y a une vision prophétique de l'histoire de chaque nation de cet universel humain. Or voici que cet universel humain est en compétition avec Israël depuis qu'Israël est ce peuple-là qui est seul a reçu la Torah. C'est encore une autre étude, mais on finit par établir ceci. Et je vous citerai le Midrash qui l'annonce. C'est qu'au fond, cet antisémitisme universel contre le peuple juif et qui se cristallise comme Israël a ceci pour raison essentielle. Nous sommes le peuple du livre. Et le peuple du livre, ça ne veut pas dire un peuple d'écrivains, hein, je vous dis tout de suite. Il y a énormément d'intellectuels juifs qui se parent de cette définition. Nous sommes le peuple du livre. Nous sommes un peuple de libraire. C'est pas du tout ça. Nous sommes le peuple du livre de la loi. C'est très différent. Okay. Et alors, un jour, si on a le temps, je vous comparerai sémantiquement la notion de livre telle qu'elle est exprimée par le mot de Bible chez les goïms et la notion de Sefer en hébreu. C'est très différent. Mais ça, on n'a pas le temps aujourd'hui. Notez ça dans un coin. Et donc, voilà que les nations entrent en compétition avec Israël. Alors la situation est la suivante. Israël a fort à faire vis-à-vis de ces compétitions. Il n'y a qu'à comprendre ce qui se passe depuis le Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Les peuples ne connaissent pas le sens prophétique de leur propre dossier contre Israël, et c'est très dur pour Israël. Alors si en plus, ils avaient l'éclairage prophétique de leur propre dossier, où on serait? Je ne vais pas vous voir le problème. C'est-à-dire, si je formulerais ça d'une certaine manière, Moïse dit à Dieu, d'accord, ça va être difficile, j'accepte, mais une condition, que les autres n'aient pas un avantage en gardant des prophètes qui leur donneraient des tuyaux, voilà comment, Bilam, Balak. Vous avez compris le problème. Et je vous dirais que, en particulier, il y a deux grandes rivalités de ces deux grandes civilisations qui ont gardé leur Sefer Yochassin, leur généalogie jusqu'à la famille des patriarches. C'est l'Église à travers Rome, à travers Ésaü, le fils d'Isaac. Il a fallu Jules Isaac pour mettre les choses au point. Ne croyez pas que c'est une blague. Hein. Si vous voulez, de ça, je parlerai un peu plus. Rappelez-moi ça tout de suite. Et Ishmael, et il a fallu attendre le Maharal pour qu'il éclaire une Gemara qui se trouve dans les premières pages de Avodah Zarah. La Masrette Avodah Zarah, c'est la Perse. C'est de notre temps que la Perse, aujourd'hui qui s'appelle l'Iran, a pris l'étendard de l'islam contre Israël, de la même manière qu'en Occident, c'est l'Église, enfin Rome, qui avait jusqu'à présent l'étendard de la chrétienté contre Israël. Maintenant, on est en train de régler les comptes avec Rome, comme préalable du règlement de comptes avec Ishmaël. Vous vivez dans une génération où, grâce à Dieu, on ne s'ennuie pas, pleine de péripéties, depuis le début jusqu'à la fin. Et que disais-je, justement? Oui. Et heureusement que ni l'Église, ni l'Islam ne savent ce que savent les rabbins de leur dossier contre nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Donc, je referme la parenthèse. Surtout, n'allez pas leur raconter des histoires pareilles. Bon, en tout cas, la Torah l'a dit, mais ils ne savent pas lire, heureusement. Et alors, c'est ça que Moïse avait demandé. Je reviens donc à notre sujet. Le fait qu'il y a un certain nombre de personnages que la Torah a mis en évidence, comme, si vous voulez, comme une sorte de paradigme. Vous savez ce que ça veut dire le mot paradigme en français? De modèle avec sa signification, de structure de modèle de ce que nous devons rencontrer dans les péripéties de l'histoire. Alors je prends le principe de la parchane de Nahmanim, Kolma Shira Laot Siman Avanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe de ce qu'il y a à arriver pour les fils. Et en effet, Israël vit à l'échelle d'une collectivité, un peuple, une nation, et pas une religion, mais un peuple, une nation, ce que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans leur mise à l'épreuve de l'identité avec la question « Es-tu Israël ?» Et en fin de compte, Abraham, puis Isaac, puis Jacob aboutissent à l'identité Israël en Jacob. Et c'est cette histoire-là de mise à l'épreuve d'identité qui est vécue par Israël en tant que nation dans sa traversée de l'histoire des civilisations. En schématisant beaucoup, l'exil d'Égypte, nous avons vécu l'histoire d'Abraham. Et sortis d'Égypte, nous sommes confirmés comme fils d'Abraham. L'exil de Babel, de Babylone, qui se termine avec Ezra et Néhémie, nous avons vécu l'histoire d'Isaac. Et sortis de Babel, nous avons été confirmés comme fils d'Isaac. Dans l'histoire de l'exil de Rome, qui a duré 2000 ans, nous vivons l'histoire de Jacob aux prises avec Ésaü, Davka. et sorti de la civilisation de Rome, nous sommes confirmés comme fils de Jacob avec le nom Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 2000 ans qu'on ne nous appelle pas Israël. Il a fallu que nous arrivions au temps présent pour que le peuple juif reçoive le nom d'Israël, pas fictivement, mais réellement, par la volonté des juifs qui ont fondé l'État d'Israël. Et le Vatican lui-même sera finalement obligé de reconnaître que cet État s'appelle Israël et pas Tel Aviv, parce qu'il a intérêt à renouer des relations avec l'État d'Israël. Bon, ça ne fait pas partie de l'interview en question, c'est pour un autre interview. Mais ça veut dire qu'on arrive au terme d'une histoire où effectivement nous sommes confirmés dans l'identité de Jacob recevant le nom d'Israël. Et alors je voudrais vous opposer, si vous voulez, deux de ces personnages, Balak et Jéthro. Ces deux personnages, Balak et Jéthro, sont deux identités des nations qui ont perçu ce que représente Israël. L'un, ça l'a mené à être pour, c'est Jéthro, l'autre, ça l'a mené à être contre, c'est Balak. Et nous allons voir en troisième position comment Pinchas intervient. Alors, si vous prenez le premier verset de la paracha de Balak, on va mettre un terme en évidence dans ce... C'est donc le chapitre 22, verset 2. Vous y êtes ? Vayar Balak ben Sippor et Balak, fils de Sippor, j'attends que vous ayez le verset sous les yeux. Et Balak ben Sippor, Vayar vit, et kol asher asa Israël à Emori, tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et alors là, vous vous référez au texte qui précède, et on voit la grande victoire d'Israël contre Sihon, Melech Bashan, Veor, tous ces récits-là, et où finalement ce Balak, qui va s'investir, s'instaurer comme chef d'une coalition, d'une ligue anti-israélienne, anti-Israël à l'époque, prend acte de cela. On ne peut rien contre la force d'Israël. Relisez le texte. Et alors le verbe qu'il a, c'est que Balak a vu. Vayar Balak. Notez cela. Jéthro, c'est dans l'Exode, mais pas le livre. Vaishma Itro. Et Jéthro entendit. Alors très rapidement, nous allons voir la différence qu'il y a entre ces deux verbes et pourquoi l'un concerne Jéthro, pourquoi l'autre concerne Balak. C'est un sujet important. Je vais vous le résumer, mais là, je vous demanderai de ne pas attendre la fin du cours. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Vous m'arrêtez, vous m'interrogez tout de suite. Il y a deux manières de dire la connaissance. En hébreu, c'est la connaissance par le sens de l'ouïe, de l'écoute, et nous avons des versets qui invitent Israël à la connaissance par l'expression « Shema Israël », « Écoute Israël ». La fonction de la connaissance qui se réfère à la perception par l'ouïe, c'est l'entendement. L'entendement, c'est un terme qui désigne au niveau de l'intellect la connaissance, mais qui se base, qui a pour véhicule de perception la perception acoustique, le fait d'entendre. Et la deuxième, c'est la vue. Et nous avons des versets qui invitent Israël à la connaissance par l'expression « Ré'é Israël »,« Vois Israël ». Et j'ai l'habitude de dire que même l'expression populaire en français connaît ces deux méthodes de la connaissance. Pour dire à quelqu'un « tu as compris », on dit soit « tu as vu » ou bien « tu entends ». Ça serait, dans le langage, finalement, on se rend plus compte de la différence. Ça se réfère à deux tempéraments différents parmi d'autres, d'ailleurs, de l'imagination perceptive. Il y a des hommes qui sont des femmes, enfin je veux dire, dans l'identité humaine, à des formes de l'imagination différentes suivant le sens privilégié. Par exemple, l'imagination est le véhicule de la pensée. En fait, la pensée authentique, c'est la pensée sans image, au-delà de l'image. Mais la plupart des gens pensent à travers des images. C'est-à-dire, ils croient qu'ils pensent, mais en réalité, ils imaginent. Et alors, lorsqu'on dit un mot, si, par exemple, pour voir les choses simplement, faire un peu de psychologie appliquée, si je dis le mot « table », alors si le concept de table vous apparaît dans la forme de la table, c'est qu'il y a imagination visuelle. Si le concept de table vous apparaît dans la signification de la finalité, à quoi ça sert la table, c'est imagination acoustique. Alors en général, l'humanité actuelle est en dominante d'imagination visuelle. Mais il y a eu un stade où c'était l'imagination acoustique, il y a eu un stade qui s'est perdu, c'est l'imagination olfactive. On connaissait en sentant les choses. Aujourd'hui, on connaît en voyant les choses. Des instruments scientifiques aujourd'hui tendent à privilégier la connaissance par l'acoustique, les instruments qui font entendre les phénomènes, aux instruments en scope qui font voir les phénomènes. Mais la dominante actuellement est dans la visualisation et depuis longtemps. Pourquoi, par exemple, je vous donne une étymologie très, très rapide. En hébreu, pour dire connaître, c'est yadoa, yud dalet ayin. En grec, c'est oida. C'est le même mot en grec. Oida. Et en hébreu, et en latin, c'est vidéo. C'est la même racine. Et le mot de vidéo en latin a donné le mot de idée en français. C'est-à-dire finalement, les idées, dans le sens de images conceptuelles, sont de l'ordre de la connaissance par la vision. C'est-à-dire la civilisation grecque, puis romaine, puis européenne, a privilégié la vision, alors que la civilisation hébraïque a privilégié l'écoute. Shema Israël est plus dominant, en tout cas premier, par rapport à Ré Israël. Mais il y a les deux. Est-ce que jusque-là c'est clair, Ken? La grande différence, et nous avons beaucoup de penseurs contemporains juifs qui le mettent en évidence, il y en a un que je voudrais citer, c'est un professeur de Bar-Ilan qui s'appelle Dov Herzenberg. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelait Bernard quand il était français. Vous le connaissez? Il a beaucoup étudié ce problème. C'est que finalement, la perception et donc la connaissance à travers la vision mène à l'idolâtrie visuelle. Et mène au culte des images, les icônes, les images, les idoles. Okay. D'ailleurs, idole, idée.